Alors, j'avais une question sur. Vous avez parlé de contrats européens, des oui. difficultés qui vont avec. Toi, tu as parlé de comment ça se passe un petit peu les choses. Une comparaison avec les États-Unis. C'est qu'en restant là, et après ça descend jusqu'à la souffrance de l'individu, mais c'est que on est en train de, comme tu as dit, de déstructurer l'organisation qui existait. Donc moi, ce que je voudrais comprendre, c'est cette déstructuration, c'est que une initiative politique locale française, ou est-ce que ça, ou comment ça s'intègre d'abord dans un contexte international, européen d'abord, et après mondial après, parce que je voudrais comprendre que est-ce que ça dépend quelque part d'un phénomène de mondialisation et pourquoi, ou peut-être ce qui s'est passé en France devrait se passer donc dans beaucoup d'États européens, parce que ce que ça tout semble dire, c'est l'industrie, les compagnies privées aux États-Unis, ils sont beaucoup plus habitués à faire de la recherche, mais je sais pas, j'entends de phénomènes, par exemple, du déplacement de la recherche, des pôles de recherche dans des pays émergents, la Chine, l'Inde. Je veux comprendre un peu globalement, parce que je suis pas sûr que ce soit que dépendant d'une politique myope locale, qui existe sans doute, mais qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays comparables à la France, l'Allemagne, ou alors à l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre?
C'est clair que pour l'enseignement supérieur, il y a une politique qui est partout la même. L'augmentation de la précarité. Ces professions-là. Bon, parce que c'est, ça se passe au niveau européen, il y a eu des mouvements en Allemagne, en Italie, en Angleterre, qui correspondent tout à fait à ceux qu'il y a eu en France dans l'enseignement l'année dernière. Donc c'est lié, je l'appelle ça, là, processus de Bologne, et puis. Donc il y a des. La stratégie de Lisbonne.
C'est quoi? C'est lié à une option budgétaire ou c'est parce qu'il y a.
Non, c'est à la limite, c'est presque philosophique. Hein, c'est ces notions de politique libérale. Et on va diriger les universités vraiment comme des entreprises et on va nous parler de faire du profit alors que. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la notion que nous, on a de transmettre du savoir.
Je veux dire en deux mots que le chercheur qui a un doctorat, là, en France, il lui contrepaye.
Mais non, mais moi, je reviens sur des choses qui sont beaucoup plus terre-à-terre pour mon laboratoire. Hein. Je vois notre directeur de laboratoire, maintenant, il passe son temps à être un chercheur d'argent. Je ne peux pas dire qu'il passe vraiment... de la recherche. Il passe son temps à essayer de décrocher des contrats pour faire vivre son laboratoire.
Mais ceci n'explique pas pourquoi le même chercheur, ou pas du chercheur, du post-doctorant, qui se trouve précaire en France, maltraité, entre guillemets, au sens que pas reconnu, se retrouve peut-être dans des bien meilleures conditions de travail et de salaire, etc., aux États-Unis. Oui, tout en étant dans un système encore plus libéral, on est bien d'accord.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que le problème, c'est que la façon dont ça s'est développé aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même chose que la façon dont ça s'est développé en France. Et comme vous disiez, dans le NIH, la façon dont ça fonctionne...
Vous pouvez dire ce que c'est, parce que nous,
il y a beaucoup d'argent public qui va là-dedans, il y a des postes permanents, donc il y a un investissement de recherche publique qui existe.
Oui, malgré le discours sur les États-Unis, on voit la masse de la dépense publique sur la recherche est incomparable. Pour ça qu'il est ridicule. Parce qu'il y a une stratégie, tout à l'heure, parce que c'est une stratégie des États-Unis, ça fait longtemps de capter toutes les intelligences pour te donner l'ordre d'idée. Les 95% des doctorants, disons, c'est pour un doctorat, aux États-Unis, qui vient dans le monde entier, ils sont fixés aux États-Unis. Ça n'y revient pas.
Je pense qu'il faut en fait diviser le partage entre les discours individuels des souffrances et la politique de
recherche. C'est un petit peu ça, j'essaie de
comprendre. Voilà, dans le sens que aux États-Unis, les chercheurs souffrent comme ici, c'est-à-dire d'ailleurs, il y a plusieurs cas que je connais des personnes qui viennent qu'ils sont beaucoup plus retribués là-bas, ils reviennent en Europe parce qu'ils ne supportent pas justement la précarité et le mode de vie absolument, comme on parlera du nôtre, individualiste de la société américaine.
Donc, et ça, on peut le dire au passé, parce que maintenant, on revient en France, voilà, on ne retrouve pas. Moi, je suis revenue pour un poste au CNRS. Effectivement, j'ai quitté un pays où il n'y avait pas de service public, et voilà, je voulais revenir. Il y avait différentes raisons, mais ça, on était nous aussi. Mais sauf que maintenant, on est en train de casser ça.
C'est ce que je voulais dire, parce que justement, il peut y avoir une stratégie gagnante de la recherche, c'est ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis, avec des moyennes quand même énormes qui dérivent quand même du fait que c'est le seul pays qui n'a pas eu des dommages de la Deuxième Guerre mondiale et qui a continué à s'enrichir et qui peut dépenser cet argent. Et elle a une politique, pas de toute l'Europe d'ailleurs, d'un certain nombre de pays d'Europe, par contre, qui pourraient faire la même chose, mais ça en soit dans le poche, donc à la place de trouver des stratégies valorisantes l'intelligence, ils essayent de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire à diriger la recherche vers la mobilisation rapide, comme ça. Et là, ça crache d'autres problèmes de souffrance, mais ce sont, à mon avis,
des choses différentes.
Des questions différentes. Alors, j'ai terminé juste en disant que l'Europe, c'est pas une unité. Comme on sait bien, et les pays sont très différenciés par rapport à la recherche. L'Espagne et l'Italie sont sûrement une pire position par rapport à la France. Ils ont encore moins de budget, encore moins de postes. Et par contre, l'Angleterre est sûrement le pays où la recherche fonctionne le mieux. Europe, à mon avis, avec un système qui est en même temps dynamique, c'est-à-dire les gens changent comme ça, comme aux États-Unis, mais qui est plus valorisant que aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens ils trouvent leur place dans le laboratoire. À moi, c'est ce qu'on me dit. Et en Allemagne, c'est une situation intermédiaire, il y a un fort investissement public, plus fort que ici, que je trouve. Et la recherche aussi est organisée beaucoup plus dans les universités, donc qu'avant.
Et ça, c'est une tradition.
C'est une tradition. Oui. Et avant, ils sont mieux placés. Et il y a un développement donc plus organique entre les centres d'excellence, parce que là aussi, c'est-à-dire, c'est pas que les centres d'excellence soient une mauvaise idée, c'est la seule façon de mettre à un service de recherche des technologies très très lourdes. On ne peut pas faire je ne sais pas quoi, une plateforme d'imaging, d'imagerie, on ne peut pas faire une imagerie dans une université X. Il faut des estimates lourdes et comme ça. Donc, ce n'est pas que les postes d'excellence en soi soient une mauvaise idée. C'est la mauvaise idée, c'est faire des îlots d'excellence et zéro autour, et la campagne autour. C'est-à-dire traiter les rapports organiques entre l'université, centre de recherche et pôle d'excellence qui fait marcher les choses. Et si les hôpitaux, c'est la même chose.
C'est-à-dire que tu veux dire au fond que c'est le biotope urbain, c'est-à-dire le biotope de la métropole, c'est-à-dire cette articulation des savoirs, de l'université, de l'expérience et les recherches financières qui est capable de clore soi-même, que c'est vraiment la structure pour mener une politique de recherche efficace. C'est ça que tu veux dire. C'est pas
ça,
simplement.
C'est moi, mais c'est pas exactement ça qu'ils sont en train de faire.
Non, c'est ça, mais je pose la question.
Comment est-ce que tu arrives à expliquer que tu as parlé tout à l'heure d'une contre-tendance? Donc, on paye, on diminue la précarité, etc. C'est dû à quoi? Pourquoi? Quels sont les avantages? Pourquoi ils font ça? Quel est leur intérêt? Si tu veux, de réduire un certain nombre.
Parfois, il y a aussi une pression de la base.
Je pense qu'il y a quand même une forte pression depuis plusieurs années qui a lié chercheurs étudiants, souvent la recherche a beaucoup contribué à cela. Et ensuite, la chose ne se passe pas exactement comme on voudrait que ça se fasse, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est, à mon avis, c'est quand même.
Pour moi, mais pas une fatalité.
Ce que je voulais dire tout à l'heure, là, c'est qu'on essayait de comprendre pourquoi les réformes sont faites de cette façon. Je crois que vous pouvez constater que les objectifs politiques sont pris par des gens qui ne sont pas des scientifiques. Donc ça, c'est vraiment une évolution qui a eu lieu ces dernières années. Le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de recherche, qui n'a pas de thèse. Et dans tous ces postes de direction, c'est un gros problème. Je pense qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la recherche. Et donc la logique, c'est la logique industrielle, managériale.
Ici, je peux dire une chose, que c'était de la recherche qui est par les contribuables, c'est-à-dire pour les gens qui travaillent et qui payent des impôts, etc. Est-ce que tu penses que vu que théoriquement la recherche c'est un lieu écologique, on voit que quelquement précaire, et quand même avec, comme je peux dire, un espace de valorisation, d'autovalorisation, aussi de cette dimension, comme je peux dire, de rechercher, de produire des choses pour le bien public et pour soi-même, etc. Tu ne penses pas que, justement, parce que c'est partie de l'argent donné à ces types de, c'est-à-dire de partie de la société qui est tellement fondamentale, tu ne penses pas que construire un modèle qui quelquefois s'est démontré, c'est-à-dire les mêmes qui contrôlent les mêmes, c'est-à-dire peut créer de la bureaucratie, peut créer par exemple un mécanisme qu'on a connu, hein, par exemple l'autre fois on a eu, c'est-à-dire un chef de service de l'hôpital, d'accord? Donc l'hôpital, c'est-à-dire c'est un lieu pour lequel si on regarde le médecin, le spécialiste, etc., les fonds, c'est-à-dire l'interaction entre la médecine, la recherche appliquée, etc., on voit que c'est un endroit. Par exemple, on nous a expliqué que dans l'hôpital, malgré qu'il était puissant, malgré qu'il avait un directeur, c'était le département et donc le chef de clinique qui déterminait, par exemple, le déplacement des fonds, la façon d'intervenir d'un point de vue budgétaire, parce qu'il avait une relation directe avec le ministère, etc., etc. On a découvert, par exemple, que ces unités si importantes avec une capacité donc, de recherche, des soins et des moyens, au fond, ils travaillaient avec cette espèce de façon un peu d'amandérin. Est-ce que tu penses que d'un point de vue collectif, de l'espace commun, c'est-à-dire de l'espace public, effectivement, un regard par lequel les mêmes ne contrôlent pas eux-mêmes, c'est important. Ou ton avis, c'est un drame. Je ne sais pas.
Oui, ce qu'on observe actuellement avec ces réformes, c'est justement une augmentation du mandarinat. En fait, c'est-à-dire qu'on voit diminuer le rôle des gens qui sont élus. Hein. Donc, ça arrive à peine à s'exprimer.
C'est-à-dire que cette façon, il détache de contrôle public, c'est-à-dire de...
Oui,
c'est une base de problème différent. Le fait que ça diminue les élus et ça augmente les nommés. C'est un problème qui c'est vrai que c'est un problème qui est lié justement à la logique de la dirigisme, la logique de la population, donc là je suis d'accord. C'est un problème différent sur, je pense d'abord, sur ta question était liée à l'évaluation entre pairs.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire.
Et ça, les élus, ou les nommés, ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible qu'une commission scientifique formée par des scientifiques les values, le travail de leurs collègues de façon objective. C'est ça la question.
C'est ça la question.
Ma réponse est oui. Si on parle d'évaluation scientifique, et je pense plus que seulement un collège des pairs puisse juger effectivement de la valeur d'une recherche, et tous les discours qu'on faisait avant, c'est-à-dire la capacité de comprendre quels sont les mécanismes de recherche qui, à l'extérieur, c'est très difficile. Autre chose, c'est l'évaluation et la.
De la
l'évolution politique, ça c'est autre chose.